Paddock RMC, Nicolas Paolorsi.
Salut les amis, le Paddock RMC est prêt à repartir pour cette deuxième moitié de saison 2025, la dernière partie, la dernière ligne droite de cette saison. 16 Grands Prix se sont déroulés jusqu'à ce mois d'août, il s'est passé plein de choses. Grand Prix des Pays-Bas la semaine prochaine, vous avez le warm-up d'ailleurs dès jeudi hein, qui sera bien évidemment en ligne. Le podcast sera téléchargé à partir de jeudi en fin d'après-midi et puis le débrief du Grand Prix des Pays-Bas lundi prochain. Mais on voulait faire un podcast spécial un petit peu pour cette rentrée, pour faire le bilan, le conseil de classe de cette première partie de championnat du monde qui est en train d'être écrasé par McLaren, Oscar Piastri, Lando Norris. Mais il y a plein de choses à dire. Du coup, on a réuni une team d'ingénieurs solide sur les appuis, mené par Arnaud Valadon. Salut mon Arnaud.
Salut Nico, salut à tous.
Et t'es épaulé cet après-midi par Séraphin Bette et Tristan Vandendrich. Salut les gars.
Salut.
Salut, salut.
Vous aussi, vous avez fait une petite coupure comme les pilotes de F1 là cet été, vous êtes mis au bord de la pistoche. Non ?
Ah si si, ça fait du bien.
Les pieds en éventail.
Ils étaient sur un yacht en Sardaigne avec Toto Wolff.
Ouais, c'est... J'ai vu que Carlos Sainz faisait de l'apnée, les gars. Pendant... Ils ont fait plein de trucs, les pilotes de F1. Il y a eu quoi comme folie un peu là dans les vacances des pilotes de F1 ?
J'étais en train de jouer au golf et il y a un fou qui est passé à droite avec un kart de golf là. Waouh, j'ai cru que j'allais mourir.
T'as une vie, toi. C'est
il
beau ça.
Il s'appelait Max Verstappen. Apparemment.
Est-ce qu'il y a des. Ouais, c'est ça. Il y a Max Verstappen dans sa petite voiturette là avec sa fille. Et bien en plus, il fait ça avec sa fille. Allez voir hein, sur le compte RMC Sport et sur la page Instagram RMC Formule 1, vous avez le petit dépassement de Max Verstappen là, quand il joue au golf pendant ses vacances. En tout cas, c'est toujours une période qui est spéciale en Formule 1, cette petite trêve estivale.
On est track limite quand même. Hein.
Ah, on est track limite, hein, le dépassement de Max, oui, oui. Alors, voilà, là, à mon avis, il prend des points sur le permis, je pense. Les gars, aujourd'hui, le conseil de classe du Paddock RMC. Vous allez me donner vos notes, les mentions très bien, les mentions bien, assez bien, et puis les grosses déceptions, les recalés peut-être de cette première partie de saison. On va faire un bilan de tout ça et puis on va se projeter sur cette fin d'année 2025. Est-ce que vous êtes prêts pour ce Paddock RMC?
On est prêts.
Let's go.
Ah ben, c'est parti, allez. On va tout de suite commencer par le positif, les amis. Je vous rappelle, bien évidemment, je ne l'ai pas dit dans le sommaire, que le Paddock RMC est dispo sur toutes les plateformes de téléchargement et que c'est super important de nous mettre une petite note, des petits commentaires aussi pour savoir si vous voulez aborder certaines thématiques. Hein. On s'est fixé un objectif, c'est d'avoir de plus en plus d'invités aussi du monde de la Formule 1 qui viennent dans le Paddock RMC, nous parler des coulisses, nous raconter comment ça se passe une saison de Formule 1. Donc voilà, n'hésitez pas hein, à réagir avec nous. Pour ça, vous avez la page Instagram, je vous le disais, RMC Formule 1, et puis vous avez les comptes perso, vous nous retrouvez sur les réseaux sociaux de tous les ingénieurs, de Jean-Luc Roy également, bien sûr, from Miami, qui sera avec nous la semaine prochaine. Jean-Luc qui nous a d'ailleurs envoyé ses petites notes lui aussi, je vais me servir de ces notes pour vous faire réagir. Les gars, on va commencer par les très bonnes notes de ce début de saison. J'imagine qu'il y aura du orange dans tout ça. Arnaud, on va commencer avec toi pour ton premier bilan des gars, des teams qui ont super bien performé dans ce début d'année 2020.
Parce que c'est vrai qu'on ne connaît pas les notes de chacun. Tu as voulu garder le suspense.
Ah oui, on a travaillé parce que je dans me suis dit après, vous pouvez être influencé, corrompu, un peu comme en Formule 1. Ça peut être très politique le Paddock RMC. Il faut se méfier, faut se méfier.
Écoute, je ne voulais pas mettre 20, mais j'ai mis 19 sur 20 à McLaren parce que je ne vois pas comment mettre une autre note sur ces 11 victoires sur 14 possibles. Ils ont fait déjà 24 podiums. Il n'y a que 4 fois où leurs pilotes ont manqué un podium la boîte, Piastri en Australie, Norris à Jeddah et les deux au Canada. Je ne vois pas, ils survolent en termes de constructeurs parce que les pilotes, j'ai mis une note un peu différente. J'ai un petit peu baissé. Vous allez me dire, il est peut-être un peu bizarre ce type, mais voilà, il domine. Et je leur mets aussi 19 sur le fait qu'avec Zak Brown, il y a le côté « let them race ». On laisse Piastri et Norris se battre, qui va nous garder un semblant de suspense pour savoir qui sera champion du monde des pilotes à la fin de la saison. Parce qu'au niveau des constructeurs, c'est tellement plié, l'écart de points est tellement abyssal. Et donc, voilà, je trouve que McLaren gère bien et fait pour l'instant une bonne saison 2025, loin des tergiversations qu'on avait pu voir sur la deuxième partie 2024.
C'est vrai en plus, les gars, que ça avait été, dans les paddocks d'avant-saison, une des grandes problématiques soulevées, c'était, ouais, au bout d'un moment, il va falloir dégager une hiérarchie, tu peux pas tenir une saison comme ça, ça va forcément péter à un moment ou à un autre. Séraphin, il y a eu des moments de tension, mais pour le coup, Zach Brown, en termes de management, pour l'instant, ce qu'il arrive à faire, c'est très fort.
C'est très fort, il y a eu des moments de tension, tout en, on a quand même un championnat où en fait, il n'y a pas eu tant de batailles que ça, vraiment en piste par rapport aux pilotes. Et en fait, c'est beaucoup de batailles un peu interposées, de celui qui va se prendre
décalée,
les points,
oui.
Voilà, des stratégies qui se jouent. Si on a en tête un peu d'autres batailles, de duels qu'il y a eu dans d'autres écuries autrefois, c'était beaucoup plus hargnant en piste. Donc je pense aussi que ces voitures jouent un petit peu sur ce qu'on peut voir malheureusement en piste avec cette saison. Mais c'est vrai que oui, la gestion est bonne. Il y a plus du double de points quand même sur Ferrari. C'est quand même pas rien. Ils ont déjà été champions l'année dernière. Ça s'était joué quand même la dernière course avec Ferrari. Là, cette année, depuis beaucoup de courses, on sait déjà qu'ils vont être champions et de très loin.
Les notes que vous avez attribuées, vous les gars, à McLaren, au team et peut-être aux deux pilotes, Piastri, Norris?
Ouais, moi j'ai mis 19 à McLaren, pareil que Arnaud, exactement les mêmes raisons, hein. ça laisse rouler les pilotes, il y a du spectacle et en même temps c'est très bien géré et on a l'impression que la monoplace ne perd pas en vitesse, ce qui est quand même quelque chose de dur, hein, parce qu'il y a beaucoup d'écuries qui souvent ont une très bonne voiture au début de la saison et qui, parce qu'ils essayent d'être plus rapides, la transforment en une voiture plus pointue et parfois moins compréhensible pour les pilotes. Et après pour Oscar Piastri, moi j'ai mis un 18 sur 20 parce que il écrase pas non plus totalement Lando Norris. Il est pas au-dessus à un point où on pourrait
surtout
lui mettre
avant la pause. Hein.
Voilà, un point où on pourrait lui mettre 19 voire 20 sur 20. Il y a des petites erreurs. Alors c'est pas des erreurs qui ont des grosses conséquences, mais c'est des petites erreurs qui font que voilà, il y a des pole positions qui sont manquées, des stratégies qui parfois sur un tour, on pense c'est à l'Autriche où son gros blocage, bah en fait lui fait perdre le Grand Prix tout simplement, donc voilà. Et puis par contre Norris, je lui ai pas mis la mention très bien, moi je lui ai mis 15,99, tout petit peu, voilà, juste pour pas qu'il ait le 16 et qu'il ait la mention très bien, parce que pour moi il a montré de plus grosses erreurs que Oscar Piastri. Il est toujours dans le jeu du championnat, mais en fait c'est un peu une note j'en attends plus, j'attends de voir ce qu'il va faire en deuxième partie de saison, voir s'il prend l'ascendant ou pas, et s'il prend l'ascendant par contre il va marquer un très grand coup et là par contre ça va être difficile de lui mettre moins que 18 s'il prend le championnat.
Écoute, je suis d'accord, j'ai les mêmes notes, 18 pour Piastri aussi, leader, 6 victoires. Norris, j'ai mis 16, j'ai pas été fort sur le 15,99 parce qu'il y a quand même l'erreur de Montréal, et s'il fait pas cette erreur à Montréal, c'est peut-être lui qui est
en tête
d'ailleurs, ouais, du classement des pilotes, et que c'était compliqué de se dire garder la tête froide, parce qu'on sent qu'il y a peut-être aussi un retour de Norris sur les derniers Grands Prix où il est peut-être en train de prendre l'ascendant aussi, il grignote petit à petit son retard sur Piastri au classement du championnat du monde des pilotes. Et donc peut-être qu'effectivement, moi je trouve que Norris est peut-être en train de revenir clairement dans la danse et pourrait, si tu me demandes, tu me demandes qui va être champion du monde des pilotes, j'ai envie de te dire que sur la dynamique juste avant cette pause, Norris est en train peut-être d'inverser le momentum par rapport
mais à. Mais c'est ce
à
que
Piastri.
J'allais vous dire, les gars, parce que j'allais vous dire peut-être que la note de Piastri sur la dynamique, il a commencé très très fort et tu te dis même qu'en début de saison, bah, ça frôle le 20 sur 20, mais que c'est en train un peu de décliner, alors que Norris, c'est l'inverse. Tu te dis qu'il fait peut-être ses 5-6 premières courses où. Ouais, allez, il est à 14, 15 sur 20, tu sais pas, et là, ça remonte en flèche, quoi. T'as quand même deux trajectoires là au niveau des notes qui sont susceptibles
après,
de s'inverser.
Après, t'en as un qui a deux fois plus de départs en Grand Prix. C'est ça aussi, tu vois.
En plus, c'est la jeunesse, bien sûr. C'est la jeunesse. Et puis, si Oscar Piastri, au final, quand on regarde la première course Melbourne, où il marque qu'il est 9e, il marque 2 points, il me semble. Si on joue à ce jeu-là, si à Melbourne, il a la bonne stratégie, entre guillemets, de s'arrêter, ou qu'il ne fait pas cette petite erreur qu'au final, tous les pilotes auraient fait presque, de se sortir sous la pluie. D'ailleurs, Norris s'est sorti, il n'a juste pas eu les mêmes conséquences. Au final, voilà. Mais ça, c'est très discutable. Et je pense que, justement, les notes peuvent largement s'inverser sur la deuxième partie de saison. À voir si Oscar Piastri rentre dans le jeu d'un Lando Norris qui revient dans la course, ou s'il garde le sang-froid comme il l'a fait depuis le début de la saison, à ne pas penser en fait à Lando Norris et simplement à faire son championnat à lui.
Si tu retires Melbourne, la pire performance de Piastri, c'est P4.
Ouais, voilà, c'est quelle constance en fait, quelle constance, parce que c'est n'importe quoi de finir. Enfin bref.
Après,
ceci dit, Norris a la même stat. Hein. Si on lui retire le Canada, ça oui, pire perd ses P4.
Non, mais c'est là où on voit juste McLaren mérite son 19 sur 20. En fait, ce qui donne une voiture qui est absolument exceptionnelle. Et ils font des très bonnes stratégies.
T'es le seul à mettre Norris avec une mention bien. Tous les autres ont mis très bien, Tristan.
C'est mon côté peut-être un peu perfectionniste sur
ouais, je sais. Et votre 19 sur 1 pour McLaren, j'ai l'impression que c'est mon prof de PS là. Non, mais on met pas 20 parce qu'on peut jamais avoir 20 sur 20 et tout ça.
Bah, s'ils avaient gagné toutes les courses.
Moi, j'avais mis 18
oui,
sur 20.
Oui, c'est vrai. T'as mis 18 toi, Sarafin ?
Ouais, j'avais mis 18.
Comme Jean-Luc.
Il n'y a pas des gestions parfaites quand même dans certains moments. Il faut quand même qu'il y ait des petits couacs par-ci par-là, même si c'est assez faible. Donc. J'avais quand même mis une petite retenue sur ça. Ouais.
Et c'est exactement les arguments que m'a donné Jean-Luc. Il m'a dit qu'il avait mis 18 à McLaren parce qu'il y avait encore quelques faiblesses.
Parce qu'il y a Zach Brown, il ne pouvait pas mettre plus.
Ouais. Et parce qu'il ne peut pas blairer Zach. Mais bon, non, on plaisante. Mais parce qu'il y avait encore quelques faiblesses dans l'adaptation et dans les stratégies. Est-ce que vous avez mis d'autres pilotes, d'autres teams dans la mention très bien ?
Alors oui, bah, j'ai mis Max.
Oh, moi aussi.
Je lui ai mis 17.
Oh, moi aussi.
Oh.
On l'a fait ensemble, c'est pas possible.
Bon, Séraphin, tu peux nous laisser.
Non, ouais. 16, on est pas loin.
J'ai mis Max parce qu'il fait ce qu'il peut. C'est un peu plus dur voilà, depuis quelques Grands Prix, mais la façon dont il porte sa Red Bull, où on voit, on est aussi un peu tourné vers 2026, mais j'ai tellement de respect pour ce qu'il fait, alors que je suis pas forcément un Verstappen Boys à la base, hein. Un peu plus du côté des flèches d'argent par exemple, mais il est trop fort, enfin je veux dire ce qu'il fait,
avec
ce qu'il maximise
comme voiture, ouais, c'est
voilà. Et tu vois l'écart, le pourcentage de points ramené à Red Bull par rapport à ses à Lawson et Tsunoda, oui. Je crois que c'est 95,5%. Donc voilà, je mets 17 pour Max parce que il fait ce qu'il peut. Et ouais, ils peuvent pas faire
petit
plus.
Bémol, du coup, moi, j'ai mis un 16. Par ces impulsions qu'on a eues en course à quelques moments, on se souvient évidemment de l'Espagne, avec le moment où il y a l'accrochage sur Russell, ce qui lui vaut quand même une note un peu négative par rapport à ça, par rapport à ses saisons précédentes, parce qu'il fait quelque chose d'incroyable avec sa voiture, qui est difficile en fait à juger, parce qu'on sait que la fenêtre d'exploitation est très fine, et que du vendredi, des fois en essai libre, jusque la qualification ou la course du dimanche, on a vu le Red Bull qui évolue vachement sur le Grand Prix. Il gagne quand même deux courses cette saison, hein, c'est quand même, il a réussi quand même à en gagner deux. Et il y a ce petit bémol de son comportement parfois, qu'on... On le sent que ça peut se comprendre aussi. Il y a de la frustration de ne pas avoir une machine capable d'avoir ce qu'il a pu faire sur les saisons précédentes.
Plus le Beans Red Bull.
Voilà, et tout ce qui se passe en interne, qui au lieu aussi, voilà, évidemment, ça joue. On sait qu'il y a des discussions.
Il y a eu quelques perfs des pôles ou des tours de qualif incroyables. Hein.
Ouais, exactement. Et puis, il y a un truc aussi qui rentre dans la note. C'est complètement ultra sportif et c'est très subjectif pour ma part. Mais moi aussi, je lui mets une mention très bien à Verstappen. C'est aussi toutes ces fraîcheurs qu'il dégage. En fait, c'est un mec que tu te mets à aimer. Max Verstappen, que tu as pu détester il y a quelques saisons, que tu te mets à aimer, tu vois, qui est rigolo quand même. Alors oui, il a des comportements des fois qui sont dérangeants, son accrochage avec Russell et tout ça.
Je crois que Schumacher, il n'avait pas des comportements dérangeants. Hein.
Mais Schumacher, t'avais moins de réseaux sociaux, t'avais moins d'images peut-être en dehors de la piste, mais t'as l'impression que Verstappen, il est cool, il est fun. Moi, j'ai envie que ce soit mon pote Verstappen, là maintenant, en ce moment. Si tu m'avais dit ça il y a 5 ans, je t'aurais dit, mais jamais c'est mon copain, Max Verstappen.
Ouais, bah il a grandi aussi dans son sport. Il était papa récemment. On voit sa façon de faire la course, c'est plus la même. Il s'en fout des déclarations qu'on peut avoir autour de lui.
Il a ses 4 titres.
Voilà, il a ses 4 titres. Derrière, voilà, il attend de voir. On sait qu'il va rester, donc il attend de voir quand même ce que l'année prochaine on va avoir comme voiture de son côté avec ce moteur Ford. Et puis, mais je suis d'accord, il y a ce côté un peu. Où il devient, il devient un peu cool, il grandit aussi, c'est ce que je disais, ça fait quand même ça fait 9 ou 10 ans qu'il est en Formule 1, je pense, comme ça. Donc,
ouais.
Voilà, il commence à être un ancien, en vrai, donc non, c'est quand même appréciable. Il nous offre toujours des beaux combats, en tout cas, je me souviens plus sur le premier tiers de saison, quand même, où il y a cette victoire au Japon et à Imola, en tout cas, où la première partie de saison, il était quand même aux avant-postes, avec plus les McLaren, quand Ferrari n'était pas encore. Où ils ont su remonter, donc ouais, ça fait plaisir. Heureusement qu'on a un pilote comme ça sur la grille, je trouve.
C'est clair. Tiens, bah d'ailleurs, je vous ai dans toutes les notes là qu'on a données, les mentions très bien attribuées, ça correspond avec le classement hein, des pilotes. Hein. Je vous rappelle qu'il y a 9 points d'écart entre Piastri et Norris. C'est Piastri qui domine le championnat avec 284 points. Il y a Norris qui est juste derrière et Verstappen est la troisième force du plateau. Il est quasiment à 100 points.
Ils ont tous autant de pôles. J'étais en train de regarder ça.
Ouais,
4 pôles pour Norris, 4 pôles pour Piastri, 4 pôles pour Verstappen, une pour Russell, une pour Leclerc.
Totalement. Donc voilà, Max Verstappen qui a 187 points et qui a du coup 15 points d'avance sur George Russell et sa Mercedes. Est-ce qu'on a d'autres mentions très bien, les gars ?
Non, moi, j'ai
j'avais mis quelques grands prix parce que tu nous avais dit.
Ouais,
de
vas-y, bah ouais, ouais, ouais. Bon, j'avais moments forts de la saison, ouais, Silverstone. Ouais.
Silverstone. Et Hongrie, j'avais mis 16 parce que d'habitude, c'est tellement ennuyant. La Hongrie, moi, je m'étais pas trop ennuyé. Voilà.
Mmh, ouais. Ouais. Ouais.
Moi, j'avais noté l'Australie.
Mais c'est un petit coef, tu vois.
L'Australie parce que, c'était le. Le beans total.
Et tellement excité, c'est la reprise.
Et après, non, moi, un que j'ai bien aimé au final, c'était l'Espagne, parce que je me souviens qu'il y a eu pas mal de stratégies, et justement, où on n'avait pas eu forcément beaucoup de batailles en piste, mais de batailles dans les stands. Et à un Grand Prix où d'habitude, tout le monde suit la même stratégie, cette fois-ci, on avait eu quelques prises de risques, et ça avait rendu le Grand Prix assez sympa pour une fois. Donc, voilà.
Ouais, c'est vrai. Je suis plutôt d'accord avec vous. Moi, là, en gris, j'ai bien aimé. En plus, j'étais en vacances, c'était nickel. J'ai écouté le paddock RMC après, franchement, régalade. Mention bien, les mecs. Donc, du coup, mention bien. On passe entre 14 et 16 sur 20. Très bonne note pour ceux qui ont eu leur baccalauréat. Franchement, bravo à tous ceux qui ont eu une mention bien. Qui vous avez mis Tristan, tiens, je commence par toi là, dans cette catégorie-là et pourquoi?
Alors, comme j'avais expliqué, Lando Norris, mais on va passer. Ouais. George Russell, j'y ai mis 15,5 sur 20 parce que j'ai trouvé qu'il avait fait un excellent début de saison dans sa monoplace. Dans une Mercedes qui, sur certains Grands Prix, montre encore des difficultés, honnêtement, parce qu'il y a des Grands Prix où la Mercedes était absolument nulle part. Et en fait, il a été tellement constant pour moi qu'il mérite pleinement cette place, surtout quand on connaît on a parlé beaucoup de la situation extra-sportive pour Max Verstappen. George Russell, je pense qu'il n'a pas eu un début de saison très facile non plus. D'ailleurs, on ne sait toujours pas comment ça se passe pour son contrat.
Si,
on sait, mais il n'y a toujours pas d'annonce officielle. Enfin,
oui, bref, c'est pas encore officialisé.
C'est toujours pas officialisé. Mais donc voilà, il était dans un flou total. Et il a quand même montré les crocs quand il fallait montrer les crocs. Il a aussi, je pense, beaucoup aidé dans la transition Kimi Antonelli. Et ça fait aussi partie des choses qui méritent d'être soulignées. Donc. Pour moi, c'est le meilleur, on va dire, du reste des trois premiers qui sont actuellement au classement. Ça a été George Russell sur ce début de saison.
Je pense qu'il va y avoir un petit débat. J'ai mis 14 parce que je ne voulais pas mettre moins à Charles Leclerc. J'ai mis 15 à Charles Leclerc.
Aïe, aïe.
Et toi, Tristan, t'as mis combien à Charles Leclerc ?
15 aussi, mais je voulais mettre moins que George Russell.
J'ai mis 14 pour Russell. Excellent début d'année. P3 en Australie, Chine, deuxième à Bahreïn. Et après Austin, OK, il gagne au Canada. Mais après Austin, je regardais les points qu'il a pris par rapport à ses concurrents directs. C'est-à-dire au moment d'Austin, il a 6 points de retard sur Max, 40 points d'avance sur Leclerc. Et aujourd'hui, il a 19 points de retard sur Verstappen et 21 points seulement d'avance sur Leclerc. Il a beaucoup moins scoré depuis Austin. Oui, j'ai regardé.
Austin ou Miami ?
Après Austin. Miami, pardon.
Ah oui, Miami, excuse-moi.
Miami, excuse-moi. Après Miami. J'ai vu le drapeau américain, je n'ai pas cherché.
Oui,
okay, après Miami.
Mais pour Antonelli, c'est un peu pareil au final. C'est un peu le symbole de la difficulté dans laquelle Mercedes est arrivée.
Même si Antonelli est un espèce de rookie wall, tu te dis ça.
Bien sûr, mais on a vu que les deux avaient perdu en rythme, que ce soit en qualification ou en course, ils avaient perdu du rythme à partir
14,
de cette période. Non, mais d'accord. Moi, je voulais mettre.
Est-ce qu'on
n'est
pas un peu, les gars, floutés là dans les notes, Séraphin, par. Alors, toi, t'as mis quoi déjà? Ta note à Russell et ta note à Leclerc?
Bah écoute, moi, j'ai mis 16 à Russell et j'ai mis 15 à Charles Leclerc. Et ouais, George Russell, je l'avais quand même mis très haut aussi. J'ai rejoint Tristan sur ce qu'il a dit au début. Parce qu'en fait, quand on remet en contexte, il a dit la transition qui est difficile et de prendre ce rôle de numéro 1 chez Mercedes, bah, je trouve qu'il l'a très bien fait. Et sur le tout début de saison, il est toujours dans un excellent résultat. De toute façon, il fait des 3e, 4e places. Mais il a été régulier. Pour moi, c'est ça aussi, c'est la régularité qu'il a montré sur l'ensemble de la saison. Il pensait un peu à Piastri qui a toujours aussi été régulier. Et derrière, avec une voiture qui, on sait qu'elle est partie dans un mauvais rythme d'amélioration, en fait, depuis, je crois que c'était vers Imola. Et ça a été dit d'ailleurs par Mercedes. Et il a, lui, su garder quand même des résultats en course. Il a su s'adapter un peu à ses changements au niveau de sa voiture. Et c'est vrai qu'il a scoré un peu moins. Il fait quand même un podium en Hongrie, hein, c'est ça.
Il est troisième.
Donc il montre encore qu'il est très très là. Il est très là, il est présent. Et en fait, je pense qu'il va continuer encore sur le reste de la saison. Et je pense qu'il va même prendre la troisième place au vu de la dynamique qu'on a chez Red Bull. Je pense qu'il est capable de chercher cette troisième place au championnat des constructeurs.
Ouais, je suis d'accord, les gars. J'avais mis Russell devant Leclerc. perso, parce que je me disais que peut-être que la temporalité des choses faisait que on avait tendance à mettre Leclerc un peu plus haut que George Russell, mais ce que fait Russell sur le début de saison, avec la pression qui l'entourait aussi sur le début de saison.
C'est vrai qu'à Ferrari, il n'y a pas de pression.
Non, mais si, mais oui, non, mais t'as raison. Mais ce que je veux dire, c'est que Russell, autour de sa personne,
ouais.
Numéro 1, la suite d'Hamilton, est-ce qu'il a les épaules, les rumeurs de Verstappen qui sont tombées alors que la saison n'avait même pas démarré. Je me suis dit, quand même, le mec il assume, quoi, et c'est très fort. Leclerc, il y avait une pression, mais Hamilton avait la même pression. Il y avait une pression populaire autour du projet Ferrari. Tu vois ce que je veux dire? Je suis pas sûr que Charles Leclerc cette saison ait eu bien plus de pression que les saisons précédentes quand il a commencé son championnat. Alors que là, Russell, je trouvais que c'était un contexte particulier pour lui. Et moi, je trouvais que ça fallait le prendre en compte un petit peu dans la note. Qu'est-ce qu'il a mis, notre Jean-Luc Roy, là ? 16 sur 20 à Leclerc, 15 sur 20 à George Russell. Il a mis
comme
Leclerc
moi.
Un petit peu plus haut. Ouais,
à
comme
peu
toi.
Près.
T'es un petit peu son fils spirituel.
Exactement.
Ceux qui me connaissent savent à quel point j'apprécie Charles Leclerc, mais pour moi, il a fait trop d'erreurs cette année. Et la première erreur qui vient en tête, c'est Miami sous la pluie, là. C'est juste. En fait, c'est.
Dans le tour de formation.
Ouais, c'est des choses que tu ne peux plus faire et qu'il arrive encore à faire. Et qui sont pas dignes, entre guillemets, d'un pilote qui veut jouer le championnat. Et il y a encore des grands prix où on sait que Charles Leclerc est absolument mauvais sur certains circuits, comme il est capable du meilleur quand on pense à la Hongrie et qu'il va chercher une pole position. Oui, les pilotes McLaren se manquent, mais personne ne s'y attendait. Donc il y a les deux, et en même temps c'est pour ça que ça donne envie de mettre plus, parce qu'on sait qu'il surperforme cette Ferrari et qu'il tire vers le haut l'équipe réellement. Et en même temps, il y a trop d'erreurs qui font que pour moi il méritait pas d'être devant George Russell à la mi-saison, en tout cas.
En fait, moi j'ai mis Leclerc parce que surtout il laisse une très bonne impression avant le break, où scorer des points,
ça,
et tu sens que c'est difficile. Plus pénalisé par son équipe que par son propre pilotage. Pas l'oublier, hein, chez Ferrari, quand on donnera la note de Ferrari, on verra bien. La façon dont il, pas ridiculise, mais il y a un septuple champion du monde dans l'autre baquet, il lui met 12-2, parce que j'ai mis la Chine, parce que sinon, là, devant la Chine, Leclerc était devant Hamilton, quoi qu'il arrive. Et 12-2 quand même, en course.
Ouais.
Totalement c'est déséquilibré. Énorme. Alors, et même, je trouve, c'est le seul à garder un petit peu la tête haute. Tu vois, Hamilton, il traîne sa peine. Et Leclerc, c'est pas facile. C'est pas la première année où c'est pas facile chez Ferrari. Et il continue d'être là. Donc, après, je sais pas ce que ça peut donner sur la deuxième partie de saison. Parce que vous voyez, Russell allait tutoyer Max. Pas si loin que ça, Charles, hein, ça peut aller vite. Il y a.
Ah non, mais de toute façon, pour moi, Russell et Leclerc vont se battre sur la fin de saison pour la troisième place.
Ouais, ouais.
Au vu de du rythme dans lequel Red Bull est en train de s'effondrer,
ouais,
et Max Verstappen également,
ouais.
Ça va clairement se battre, je pense, pour la troisième place entre le pilote Mercedes et le pilote Ferrari. Mais c'est juste que je vois ce que Arnaud veut dire, dans le sens où clairement il est à un niveau au-dessus de son coéquipier et de son équipe. Charles Leclerc, ça, on est d'accord. Mais en même temps, il a montré des saisons où il était justement bien meilleur. Et c'est peut-être là où j'en attendais un peu plus. Parce que c'est dans ces moments-là qu'on a besoin du meilleur de Charles Leclerc. Et...
Parce qu'il pose la question, c'est qui la deuxième voiture du plateau? Ah, mais c'est... Ah, moi, je suis incapable de répondre. Hein.
Alors, justement, moi,
ça dépend énormément de choses.
Ça dépasse.
Ouais. Ça dépend de la météo, ça dépend du circuit.
J'allais y aller sur ça en vous demandant votre note de Ferrari. Parce qu'on en parlait, Arnaud, là, tu t'évoquais, tu disais, on va voir les... Quelle note vous avez mis à la Scuderia? Si vous lui avez mis une note, je me base sur ce que m'a transmis Jean-Luc. Jean-Luc, il met un 14 sur 20 à la Scuderia Ferrari. Moi, je trouve que c'est super bien payé.
Moi, j'ai mis 10.
J'ai mis 12.
Moi, j'ai mis 13.
Ah ouais, donc Sarafin, tu te rapproches. En fait, Jean-Luc, il dit c'est bien payé, mais mine de rien, Ferrari est deuxième du championnat. Et avec un pilote et demi, quoi, quasiment. Donc il dit au final, c'est pas si mal, Sarafin.
Alors c'est pas si mal, ce que tu dis c'est juste. Si on compare, c'est pareil chez Red Bull, c'est un peu pareil aussi chez Mercedes, on a un rookie aussi. Donc ces trois écuries-là, ils sont aussi avec un deuxième pilote qui est un petit peu moins performant. Après, moi, j'ai quand même mis un 13. D'ailleurs, c'est pareil que Mercedes, parce que je considère qu'il y a eu une progression qui était assez constante chez Ferrari. C'est-à-dire qu'au début de saison, on s'attendait, surtout au vu de ce qu'on avait vu l'année précédente, à une grande saison pour Ferrari, et on les attendait à aller battre peut-être voilà, se rapprocher vraiment de McLaren avec Lewis Hamilton. Et ça a été décevant, clairement. Mais je trouve qu'il y a quand même eu, au fur et à mesure des Grands Prix, une voiture qui s'est améliorée. Et effectivement, on partait assez loin, 4e, 5e. Et on s'est rapproché, finalement, on s'empare de cette deuxième place. C'est sûr que ce n'est pas ce que veut l'écurie Ferrari. On sait que Frédéric Vasseur, on a mis du temps avant de reconduire justement à la tête de la Scuderia. Mais je trouve qu'il y a quand même beaucoup de positifs dessus. C'est plus une gestion humaine en fait aussi qui va être là un peu le point négatif. Sur les quelques radios qu'on peut entendre, on sait que c'est encore compliqué entre les pilotes et les ingénieurs. Donc c'est les Italiens. Il faut.
Moi ici, tu es full of water.
Allez les gars, je peux vous assurer que je suis allé. Bon, je vous raconte un petit peu ma vie perso, mais moi je passe mes vacances en Corse. Je prends un bateau italien. Même pour garer la bagnole dans le bateau, les gars, des fois ils sont difficiles à comprendre. Hein. Je peux vous assurer que la communication avec les Italiens, des fois, c'est très compliqué.
Mais tu sais que
Arnaud, toi tu mets 10 toi.
Je mets 10, mais j'ai mis 10 à Red Bull, j'ai mis 10 à Mercedes.
Ah ouais.
Ah oui. Ouais, okay. Ok.
J'ai mis tout le monde sur le même plan. Parce que t'as des trucs très bien et t'as des trucs moins bien.
Et comment tu peux mettre Red Bull avec la même note que Mercedes?
Bah parce que c'est Max. Parce qu'ils restent au coude à coude au championnat du monde des constructeurs et que. Ouais, moi je me suis dit je les mets tous dans le même sac parce qu'il y a des trucs qui me conviennent pas. Après j'entends que ça reste subjectif, tu vois des notes qu'on met.
Ah bien sûr, bien
Ferrari
sûr,
au-dessus de Red Bull, hein. Mais j'ai voulu tout mettre parce que ils sont tous dépassés par McLaren. Tu sens qu'ils pensent tous un peu à 2026. Voilà, moi je me dis allez tout le monde dans le même sac. Je vois pas foncièrement Ferrari, Red Bull et Mercedes. C'est vraiment vous êtes là derrière McLaren. Bon, vous avez bossé moins bien, ou vous pensez à l'année prochaine, à le changement de réglementation. Moi, c'est ce que je me suis dit. Tu vois, j'ai mis 10 Ferrari parce que Leclerc est bien, encore quelques problèmes de stratégie. Hamilton, ils n'arrivent pas à le remettre dedans, et avec son ingénieur, tu vois que c'est toujours un petit peu compliqué. Ils sont quand même deuxième au champion du monde des constructeurs. Donc, allez, je comprends qu'on aille chercher le 12. Red Bull, bah, Max ne peut pas tout faire. Et puis le Bins un peu en interne, mais je ne les vois pas. Tu vois, mettre moins de 10 et Mercedes parce qu'ils n'arrivent pas à faire marcher foncièrement cette voiture, tu vois.
Ouais. Et moi, vous allez peut-être me traiter un peu d'assassin, mais moi, j'ai mis 8 pour Ferrari.
Oh non, c'est dur. Oh c'est dur, c'est dur.
En fait, je t'explique. Je me suis basé sur un truc très simple. C'était les attentes qu'on avait avant la saison et les discours, en fait.
Ouais.
Et toute la communication qu'il y avait.
Mais ça, c'est tous les ans, ça.
Ouais, non, mais pas comme ça. Tu sortais d'une saison où tu avais une vraie dynamique, où tu avais un Charles Leclerc qui avait gagné à Monaco, qui avait gagné en Italie, qui s'est battu jusqu'à la fin.
Et ils n'ont pas gagné une seule fois, là, pour l'instant.
Ouais, c'est ça. T'avais une écurie qui s'est affirmée comme la deuxième force du plateau, qui venait vraiment titiller le meilleur. Et qui te
le
disait,
recrutement XXL.
Voilà, l'année prochaine, franchement, on va jouer quelque chose. T'as Hamilton qui arrive. Alors après, c'est peut-être de la hype, nous, propre à nous, fans de Formule 1. On savait bien que peut-être que l'adaptation allait être un petit peu plus longue pour Lewis Hamilton. Mais malgré tout, tu fais venir le GOAT dans ton écurie et tu te retrouves à galérer comme ça sur le début de saison. Ça peut pas, pour moi, en termes d'objectifs. Là, on fait le bilan à la mi-saison. Hein. Peut-être qu'en fin de saison, franchement, je vais.
Tu demandes un Tifosi, t'es content de la saison, il va te dire non. Hein.
Bah, franchement, je pense que les mecs.
En même temps, un Tifosi, t'es deuxième, il va forcément te dire non.
Bah oui, mais peut-être.
C'est logique.
Oui, mais Tristan, peut-être encore plus que d'habitude, parce que je pense que le Tifosi Ferrari, il est passé par des années très compliquées. Et cette saison, le gars, il avait vraiment de l'espoir. Il s'est dit, c'est enfin la nôtre, c'est pour nous. Et là, quand tu vois le bilan à la mi-saison, tu dis. Ouais, bah Hamilton, c'est un flop pour l'instant. Leclerc, il fait ce qu'il peut, mais il y a quand même quelques fèves. Alors oui, l'équipe gagne en compétences, tu t'améliores. Mais quand t'es Ferrari avec ce standing-là...
Ça devrait être un deuxième plus solide.
Pour moi, faut pas réécrire l'histoire. Honnêtement, si l'année dernière, certains se sont dit l'année prochaine, c'est la nôtre, bah, je suis tifosi, hein, personnellement. Je me suis jamais dit ça. À aucun moment, je me suis dit ça. Pourquoi ? Parce que quand on regarde les deux victoires l'année dernière de Charles Leclerc, Monaco, bon, c'est Monaco, hein, c'est-à-dire que si tu fais la pole, ta voiture elle est forte sur un circuit qui.
Ah, tu parlais des circuits qui lui réussissent pas.
Bah non, mais voilà, si tu fais la pole à Monaco, t'as gagné le Grand Prix. Bon, ça c'est vu en.
Ah, Leclerc à Monaco,
non,
bon.
Non, ça aussi, ça a mal vieilli, mais. Et Monza, on regarde, c'est une stratégie osée, un arrêt, voilà, ils ont bien réussi. À aucun moment l'année dernière sur la performance, personnellement, je voyais Ferrari passer devant McLaren. Et après cette année, moi pourquoi le 8 c'est dur ? Tout simplement déjà parce que. L'équipe au stand a été irréprochable. Il n'y a eu aucun arrêt au stand de plus de 2,5 secondes, je pense, depuis le début de la saison. Et ils sont, je crois d'ailleurs qu'ils sont en tête du championnat des arrêts au stand, justement. Et aussi parce qu'au final, alors les pilotes ont du mal, mais ils ont quand même une voiture qui est sur une pas une majeure partie, mais au moins la moitié des Grands Prix et peut-être deuxième force du plateau. Donc ils ont quand même les armes, entre guillemets. Et puis aussi pour l'effort, parce que ramener une nouvelle suspension, une toute nouvelle suspension à presque mi-saison, voire c'était la mi-saison, moi je trouvais ça osé. Et de pas simplement dire adieu au championnat cette année, mais de continuer.
Parce que ça, je suis
aussi,
d'accord avec toi.
Ça aussi, tu vois, c'est du mental. Ah ouais. Ça aussi, c'est quand tu dis à l'équipe, non, mais on va pas s'arrêter là, on va quand même bosser sur encore 2025. Bon, là, je pense qu'ils sont officiellement partis à 100% sur 2026, mais on l'a vu pendant la trêve, apparemment, le règlement est encore en train de changer pour 2026. Donc, en fait, ça ne sert pas forcément à grand-chose de se plonger à 100% sur 2026 pour l'instant, on a l'impression. Mais en tout cas, de voir que l'équipe travaille encore en 2025 avec des résultats pas terribles à essayer de donner une meilleure voiture, bah, ça donne un écosystème qui, pour moi, mérite au moins d'être souligné. On reconduit Frédéric
Vasseur.
Ouais,
mais Vasseur, tu te rends compte là où on en est. Ferrari. T'as... Heureusement que les gars, quand même, ils vont chercher de la perf pour la fin de saison. Bah, ils ont envie de se battre.
Bah, le Ferrari de 2020 à 2022.
Oui, mais
je te rappelle ce qui s'est passé ou pas quand
même. Oui, je sais. Mais,
c'est là
mais,
aussi où je veux marquer les, je veux montrer les efforts. Et pour moi, le 8.
Mais là,
est trop,
tu me compares avec la période la plus noire de peut-être de l'histoire de l'écurie.
Avant Todd, c'était aussi un peu comme ça. Mais c'est juste que pour moi, le mettre en dessous de 10, c'est vraiment très, ouais, c'est vraiment très dur parce qu'on juge pas que le résultat et on juge pas que le fait de gagner des grands prix. Pour moi, on juge vraiment la totalité, la globalité et rien que pour ce que les mécaniciens ont fait cette année aux arrêts au stand, ça mérite une meilleure note. Et ensuite, bon, allez, mettre plus de 10 ou 11, 12, on va dire que c'est pour le beau jeu. Mais mettre 8, je trouve ça quand même très, très sévère.
Ok. Écoute, tu m'as limite convaincu.
Après,
c'est
aussi peut-être le résultat de Hamilton qui t'a déçu, peut-être, Nico, justement, de mettre
là, c'est le package. C'est le package, voilà. Là, j'englobe tout. Quand je juge le team, tu vois, j'englobe tout. Genre, les perfs de la voiture en début de saison.
La Chine.
L'écart avec McLaren sur le début de saison, j'avoue que ça m'a déçu.
Oui.
Je pensais pas que Ferrari allait débuter la saison en étant aussi loin de McLaren. La Chine, bah, bien évidemment, forcément, là, tu te dis déjà que la saison, elle est morte. Donc, voilà. Il y a eu des petites hésitations, même Fred Vasseur, tu le sentais un petit peu perdu en début de saison.
Après,
alors que c'est
Tristan
un mec
a raison, on
après,
revient aussi tellement loin.
Exactement.
Non, mais souvenons-nous quand on voyait cette écurie, le manque de rigueur.
Bien sûr,
je ne
suis d'accord avec Tristan.
Non,
je suis complètement d'accord aussi sur le fait qu'en sport automobile, tu juges la progression de l'équipe, du team tout au long de cette saison. Et ils sont en vrai progrès, ils ont réussi à aller chercher des podiums, ça bosse bien. Tu as raison, dans les stands, franchement, c'est top ce qu'ils font. Mais en fait, j'avais tellement d'attentes que voilà, moi, ça pèse forcément sur ma note. Elle est dure, cette note, je suis d'accord. Mais
Jean-Luc,
d'ailleurs,
il a mis
franchement,
combien
14.
Il a mis 14, Jean-Luc. Mais d'ailleurs, en commentaire, franchement, venez réagir avec nous et donnez-nous votre petite note là, sur Ferrari. Parce que je pense qu'il y a un plus. Le truc avec Ferrari, c'est que tu as un jugement qui ne peut jamais être pondéré. Tu as l'impression que tu es toujours très extrême dans ton jugement quand tu aimes la Scuderia. Donc c'est ça qui est marrant.
Au final, ça montre aussi à quel point McLaren, je trouve, a très bien travaillé cette année. Surtout
aussi,
quand on voit que
sûr,
toutes les équipes raison. Derrière sont à peu près au même niveau. Quand on prend Red Bull, Ferrari et McLaren. Enfin, et Mercedes, pardon. On voit juste que McLaren est au-dessus du lot.
Ouais. Ouais. On peut que tirer notre chapeau.
Est-ce que tu as est-ce que pardon les gars, on va peut-être embrayer parce qu'on a encore pas mal de trucs à voir.
Moi, j'ai mis une note incroyable pour une écurie.
J'ai
mis un 13.
Vas-y.
À Sauber.
Ah, j'en étais sûr.
j'ai mis pareil, j'ai mis 13 aussi. Ah,
parce que franchement, je regardais les meilleures performances historiques de l'écurie. On est sur une 6e place dans l'ère moderne, ils avaient fait en 2001 une 4e place. Si vous avez la line-up, vous êtes bon.
2001
chez Sauber avec Red Bull comme partenaire titre.
Oh là.
2001
Sauber. Vous étiez pas né. Hein. On avait un futur champion du monde avec Ferrari.
Raikkonen.
Et Nick Heidfeld.
Nick Heidfeld, l'Allemand.
Et non, plus récemment, 2012 avec Kobayashi et Perez, ils avaient fait 6e au champion du monde des constructeurs. Et en 2022 avec Bottas et Zhou. Voilà.
Ah ouais.
Mais tu vois, alors évidemment, il y a la perte d'Hülkenberg sur le podium à Silverstone, mais même Bortoletto, tu sens des choses intéressantes. Mmh. Ça score des points. Ils ont rattrapé Aston Martin. Tu as envie de voir ce que ça va donner avec Audi. Moi, j'ai des bonnes ondes. Et il faut mettre en relation aussi les moyens que c'est. Hein. Une équipe suisse, on n'est pas concentré en Angleterre. Voilà. Binotto qui est arrivé. Donc moi, j'avais franchement envie de saluer Sauber. Voilà.
Je suis d'accord. Serafin, est-ce que tu as d'autres mentions bien là un peu là,
bah moi, j'ai mis même encore une meilleure note pour une écurie, c'est Williams. Parce que moi, j'ai mis 15 à Williams.
Pas la note que j'ai mis à Sainz, moi. Oh là là là.
Alors, je ne l'ai pas noté, moi.
Il est, on parlera après, mais justement, ça va être intéressant. Et moi, j'ai mis une coup de meilleure, j'ai mis 15 à Williams, parce que, honnêtement, leur saison, au vu de ce qu'on a depuis les dernières années, elle est extrêmement positive. On sait qu'il y a eu un gros travail en interne depuis l'arrivée de James Valve. Donc, on sait que l'écurie a beaucoup changé dans la manière de travailler. C'est modernisé vachement dans les process de travail, dans la gestion, même de concevoir les pièces, de gérer tout ça. Et ça se ressent parce que quand on voit quand même le classement, ils sont quand même cinquième du classement des constructeurs.
T'es passé de pire équipe à P5.
Ils sont le meilleur du reste.
C'est ça, ils ont 70 points. Il y a No Man's Land devant avant Red Bull, mais ils sont quand même cinquième depuis un petit moment. Il faudrait voir depuis quand, mais en tout cas, ils scorent très souvent des points, et surtout avec un Alex Albon. Alex Albon, je trouve qu'il est très très bon. Moi, j'ai mis un 15 sur 20 pour Alex Albon. Il est très très régulier, je trouve, toujours là quand il faut. On sait que c'est beaucoup plus compliqué pour le nouveau, entre guillemets, qui est arrivé cette année, mais il y a beaucoup d'expérience quand même en plus, Carlos Sainz. Donc moi, je trouve très très encourageant Williams, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner l'année prochaine avec le moteur Mercedes, voilà, comment se diriger cette équipe. Mais en tout cas, il y a une vraie stratégie, il y a des vraies ambitions, une vraie façon de prendre les grands prix un après les autres, ouais, qui est très positive par rapport à d'autres écuries comme les Français, par exemple. Donc voilà, je gros point positif pour Williams. Combien il avait mis, Jean-Luc?
Jean-Luc, alors attends que je te dis ça. Je crois qu'il les a mis entre 10 et 12. Ouais, entre 10 et 12, il a mis Hülkenberg, Williams. Ouais, voilà. Il n'avait pas donné de note précise, mais entre 10 et 12. Je suis en train de regarder tes notes, Séraphin, là. Les gars, tu sens que Séraphin, c'est l'ingénieur, quoi. Il m'a fait un tableau Excel. Il m'a fait un tableau carré. Tu sens que c'est le gars, il aime les chiffres, quoi. Il aime la data. Ça, j'adore. Est-ce qu'on a d'autres mentions bien, les gars, entre 14
moi, j'ai...
et 16 ou...
Pas 14 et 16, oui, non. Non, c'est
à
bon
la
bon.
Moyenne, là, qu'est-ce qu'on a là autour de la moyenne, vous avez... Qu'est-ce que bon, vous
écoute,
avez
moi j'ai mis, parce que c'est coup de cœur, j'ai mis 12 à Fernando Alonso, mais c'est vraiment non. La fin.
Ouais.
C'est 12 à Fernando Alonso,
bah, c'est vraiment juste
pareil,
avant le break.
J'ai mis 12 aussi, ouais.
Non, mais c'est une blague.
Vous savez ce que...
Mais regarde pas la même Formule 1.
Six derniers cours, 5 fois dans les points.
Je suis d'accord. Non,
mais... Alors après, je me suis aperçu d'un truc, il a autant de points que Lance Stroll.
On n'est pas en 2005, hein, 2025, il faut mettre le 2 devant le 5.
Je me suis remarqué, je fais, il a marqué autant de points que Lance Stroll. J'étais là, je fais... parce qu'après Stroll avait beaucoup scoré en début de saison,
ouais,
pas mal. Et non, moi je trouve que Fernando, ça va mieux. Et donc voilà, c'est romantique.
Alors les gars, je vous donne la définition de Jean-Luc, parce que Jean-Luc il m'a mis des petites annotations aussi là. Il m'a mis son demi-frère Gonzalo Alonso était au volant jusqu'à Monaco, mais on a retrouvé Fernando
bah voilà
lors des 6 derniers Grands Prix.
Moi, c'est le 12 de l'encouragement, parce qu'il faut respecter Fernando et parce que c'est un très bon manager de Bortoletto.
Moi, j'ai mis 8. Moi, j'ai été cash. Je lui ai dit le corps ne le suit plus et bientôt le mental va aussi partir. Parce qu'on a vu que physiquement, ça commence à être très dur de tenir 24 Grands Prix. On le sent de plus en plus désespéré aussi, j'ai l'impression, le Fernando Alonso. Il y a une époque où il nous faisait croire encore que dans sa communication il avait des attentes, même chez McLaren à l'époque il arrivait à nous faire croire que l'année prochaine ça allait mieux, mais là j'ai l'impression qu'il a même pas envie que 2026 arrive au final, dans sa façon d'être, dans sa façon de parler aux médias, dans sa façon de juste il est en train de faire un copier-coller de Lance Stroll, hein. Il nous fait une Lance Strollite. Voilà, c'est
sans cracher la voiture, non. Pardon.
Et pourtant, je comprends à quel point des gens peuvent apprécier ce pilote par son talent, mais là, en fait, j'ai l'impression que le talent ne lui suffit plus face à ce qui est en train d'arriver, c'est-à-dire
ouais,
la vieillesse.
Ouais, tu vois, t'as un moment où c'est toujours douloureux de voir un mec qui fait la saison de trop, surtout quand t'as été un champion comme ça, un super champion. Donc c'est vrai que moi, je suis un peu d'accord avec
des
toi.
Des saisons
c'est
de trop, il en fait
c'est
beaucoup.
C'est surtout la caisse, ouais, la voiture qui a un problème. Hein.
On est d'accord, oui, mais je trouve que derrière, il ne suit quand même pas. Il y a quelque chose qui ne va pas.
Il y a plus de bas que de haut.
Ouais, voilà, ouais. C'est ça le problème.
Où est-ce que vous m'avez mis un petit peu nos petits Français, là? Ils ont
je leur ai mis tous 11.
Ah ouais,
ah, pas mal.
Ouais. Ah non, j'ai mis plus, hein.
Alors allez-y, vas-y, les notes des Français. Donc tous 11 pour Arnaud. Tristan, t'as donné quoi?
Moi, Isaac, je lui ai mis 13,99. Pareil, pour pas lui mettre la mention bien.
Ouais,
la mention assez bien. Après, j'ai mis Pierre Gasly et Esteban Ocon, pardon, je lui ai mis 13. Et Pierre Gasly, je lui ai mis 12 sur 20. Parce que Pierre, c'est vraiment une note de... J'ai mis la garde meurt mais ne se rend pas. Voilà, c'est un
ouais,
français
c'est
face aux Anglais.
J'ai vu ton truc, ouais.
Ça pourrait être le leitmotiv de Pierre Gasly et puis bah, parce qu'il est entouré d'incompétents au final. Donc bah voilà, une équipe qui essaye de perdre le moins d'argent possible, bah ça fait jamais bon ménage. Hein, on l'a déjà vu plusieurs fois en F1. Mais il continue à marquer des points. Il continue à faire des performances. Il continue à faire des Q3. Il est honnêtement, il a encore le smile et tout, même quand il fait des mauvais résultats parfois. Et c'est vraiment une force de caractère et c'est pour ça que je voulais le souligner. Et après, bah, Esteban Ocon un tout petit peu plus parce que pour moi, il a montré dans une voiture parfois un peu moins bien que l'Alpine. Et c'est dur de faire moins bien que l'Alpine. Pareil, des résultats très encourageants. Et puis Isaac, parce que moi j'ai mis le 13,99, j'avoue, il est pour Monaco surtout. Et en Espagne aussi. Mais attention. Quand même, avertissement de niveau sur la fin avant la 13 estivale, parce qu'il nous a quand même commencé à nous faire des résultats moins bien, ouais, surtout face à son coéquipier.
Et des rythmes catastrophiques.
Et des rythmes en course. Des courses, des week-ends moins bien construits, j'ai mis. Et il faut qu'il profite de cette fin de saison, justement pour trouver une façon de mieux construire ses week-ends et arriver en course avec peut-être un meilleur setup justement pour la course et éviter de sombrer au classement après des bonnes qualifs parce qu'il il garde une très bonne pointe de vitesse.
Et puis à voir qu'est-ce que ça donne sans Laurent Méquet sur cette deuxième.
Ouais, c'est ça. Il y a pas mal de points d'interrogation. Après, il y a aussi il y a tout à digérer aussi. Tu as peut-être forcément un moment là en mieux.
Tous. Après, pour moi, Isaac, ça reste quand même le meilleur des rookies parce que je mets Antonelli à part et dans une Mercedes. Pour moi, ouais, ça reste.
Pour moi, il a été meilleur qu'Antonelli au final. Oui. Enfin, Antonelli a montré un podium, il a montré une pole, donc c'est aussi des très bons résultats. Mais en même temps, c'est pour ça que moi je lui ai mis 13,5 à Kimi Antonelli, parce que après Imola, lui, il a eu l'alerte d'avertissement de niveau après Imola. Isaac, il l'a eu plus tard. Donc c'est là aussi où il faut voir comment Antonelli va réussir à continuer sa progression.
Vous avez tous mis là dans les notes Adjar meilleur rookie, Sarafin.
Pareil, oui, j'ai mis 13 aussi, ouais. Comme Tristan. Okay. Et moi j'ai mis juste pas très loin, il y a Bartoletto quand même, on parle des rookies, ouais. Où j'ai mis 12 parce qu'on a senti que sur cette seconde moitié de, on va dire depuis 5-6 Grands Prix, ça va beaucoup mieux, l'écurie a vraiment scoré des deux côtés, on sentit des améliorations et ça l'a aidé d'ailleurs Bartoletto, il est toujours d'ailleurs face à son coéquipier meilleur en qualification, en duel. Avec d'ailleurs 8 à 6 pour Bartoletto. Bon, c'est pas un gros écart, mais pour un rookie, c'est quand même pas mal. Et juste derrière, parce que oui, je trouve que Bartoletto, il a quand même, c'est quand même un pilote qui a gagné la saison de F3, qui a gagné la saison de F2, qui arrive cette année en Formule 1. Et au début de saison, c'était compliqué de le juger parce que la voiture ne lui permettait pas de montrer de quoi il était capable, mais je trouve qu'il était quand même, il a pas fait beaucoup d'erreurs. J'ai pas le sentiment d'avoir eu un pilote en difficulté, donc il fallait avoir un peu de temps. Et là, on sent qu'il se libère, qu'il se dégage. Alors que c'est vrai que moi, qui ai mis Antonelli, par exemple, j'ai mis 11 personnellement parce que je trouvais que c'est un peu un diamant qu'il faut un peu, on va dire, polir si on veut, parce que on sait que c'est un très très bon pilote et il a roulé énormément avec Mercedes, mais en fait il est très jeune et en fait il y a un côté mental justement où on sait que c'est pas facile dans sport automobile comme ça. Il arrive d'une saison de F2 l'année dernière où il est même pas passé par la F3, donc en fait il a beaucoup de choses encore à apprendre et dans ces moments compliqués, eh ben on sent que mentalement c'était difficile, c'était compliqué. Donc aussi avec une voiture, on rappelle qu'il y avait quand même des petits problèmes sur la Mercedes avec notamment le moteur et on sait que Williams avait été aussi le cas. Donc il y avait eu pas mal d'abandons, mais il y a eu des petites erreurs. On se souvient de l'Autriche, hein, avec ce gros blocage de roues au virage 2, je crois, ou 3, début en Autriche, premier tour. Donc moi, Antonelli, ouais, c'est même le pilote que j'ai mis. Bon, il a quand même une note correcte, mais en tout cas, j'attends de voir, comme dit Tristan, je rejoins sur cette fin de saison là, sur une reprise de confiance en lui, parce que je pense qu'il en est capable. Il faut ça lui de montrer qui il est.
Moi, ce que j'aime chez Bartoletto, c'est la construction intelligente de son début de carrière.
Voilà, ouais.
L'environnement, lui apprend son métier. Antonelli, c'est plus dur d'apprendre son métier quand t'es direct chez dans une Mercedes, dans un baquet de Mercedes.
Ah, la pression n'est pas la même. Tu vois. T'es pas exposé de la même manière. Ça,
les attentes sont.
Ah oui.
Faut que tu marques un peu de points quand même.
Ouais.
Tu vois, t'es dans une Mercedes.
Et il fait pas de vagues. Et il fait pas de vagues. Bon, après, Antonelli n'en fait pas non plus. Mais
et je trouve que Mercedes est indulgent avec.
Oui,
tu vois, ils sont.
Mais il y a quand même un peu de storytelling. En fait, ce qui a été dur, je pense, pour
Antonelli chez Red Bull, ils ne seront pas indulgents. Hein.
Non, mais oui, Antonelli, ce qui a été dur pour lui, je pense, c'est entre Monza l'année dernière, son crash, et le début de saison là, où en fait, on a constamment été dans les médias chez Mercedes pour lui dire mais Antonelli est exceptionnel, c'est un excellent pilote, oui. Vous verrez, il est très bon, etc. Donc derrière, forcément, quand on vous dit ça, il a passé son bac cet été, hein, Kimi Antonelli. Donc je ne sais pas quelle note il a eu, lui, au bac.
C'est son anniversaire aujourd'hui, en plus, Antonelli.
Et c'est son anniversaire aujourd'hui.
Ah bah, bon anniversaire, Kimi. Bah, il nous écoute, attends.
Non, oui, je pense que mentalement aussi, il faut lui laisser le temps. Parce qu'il n'a que 18 ans, quoi. Il n'a que 18
mais
ans.
Mais oui, c'est ça. C'est... Oui, bien sûr. Après, on juge voilà, en fonction de la performance. Mais bien sûr, c'est subjectif. Il faut lui laisser du temps, on est d'accord. Passons au recalé, les mecs. Des notes entre 6 et 10. Là, on se rapproche un peu des notes que moi j'avais, que je tutoyais là, quand j'étais au lycée, avant la terminale. Donc ça, c'est un milieu que je connais bien. Qui vous m'avez mis dans cette catégorie-là?
Alors, je viens de changer une note.
Ah, vas-y.
Oui, j'ai mis 7 à Hamilton comme son nombre de titres de champion du monde.
Ah, pas mal. Oui, on prend. Mais Hamilton, on le met tous dans les recalés, non?
Ça dépend à quel niveau.
Je lui ai mis 10, quand même.
9.
Ah ouais, vous avez été assez indulgents, les gars.
Moi, je lui mets 7 parce qu'il se fait exploser par son coéquipier.
Je lui mets quand même 10.
Pourquoi tu lui mets 10?
Pourquoi je lui mets 10? Je suis en train de relire ce que j'avais écrit.
J'avais mis 8 à la base, je me dis, allez, mets 7, comme ça fait.
J'ai mis 10. Non, j'ai mis 10 parce que, alors, on parle quand même de quelqu'un qui est resté. Vous habitez dans un village, dans une maison pendant 10 ans, vous passez dans une. Vous habitez dans
un village
de 300 habitants et vous passez à. Vous arrivez dans Paris. C'est pas forcément facile. Bah, Lewis Hamilton, c'est un peu pareil au final, même si je compare pas Mercedes à un village de 300 habitants, mais il change complètement, il faut pas oublier ça quand même, il change complètement d'environnement. La monoplace, il n'y a rien à voir. La façon de travailler, il n'y a rien à voir. La façon de communiquer, il n'y a rien à voir.
La nourriture,
il n'y a rien à voir. Les pauses clopes, il y en a beaucoup plus. C'est pour ça aussi que je suis un peu indulgent, parce que j'attends quand même la fin de saison, voir s'il y a un petit changement. Après, je pense aussi que Lewis Hamilton, lui, il s'est un peu plus coché 2026 dans la tête que 2025 directement. Et Fred Vasseur, je pense que c'est pareil. Dans son esprit, le but, c'est bon, déjà, c'est de vendre, hein, on est d'accord, quand il recrute Hamilton. Mais c'est aussi de voir sur un tout petit peu plus long terme. Et je pense que 2026 peut être l'année où Lewis Hamilton sera le plus utile.
Je suis d'accord avec toi. Quand tu lui mets ce contrat-là, quand même, tu peux pas m'ôter de l'esprit que Elkan, là, ça doit quand même faire un peu la truffe. De voir que ce gars-là souffre comme ça et qu'il y a un tel décalage avec Charles Leclerc, même si Charles Leclerc connaît la maison, c'est l'enfant de Ferrari, on sait. Et bien sûr qu'il faut un temps d'adaptation. Mais malgré tout, moi, je pense qu'en interne, ça doit tiquer.
J'ai la question, 1 million d'euros.
Il y a des mecs qui doivent se poser.
Est-ce que Sainz aurait fait mieux?
Moi, je pense que oui.
Oui. Bah, parce que ça faisait 2-3 ans qu'il était dans l'écurie.
Après, je pense qu'il ne faut pas oublier aussi que Lewis Hamilton est rentré dans un jeu politique. Là, il est rentré dans un jeu, encore une fois, sur 2026, où il dit qu'il n'est pas bon, que c'est de sa faute, etc. Nanani, nanana. Mais en interne, je suppose qu'il est en train justement de donner un petit peu ses consignes et ses ressentis personnels pour que la voiture de 2026 lui
convienne un peu mieux.
Mais qu'est-ce que tu veux revendiquer mieux. Enfin, oui, je suis d'accord avec
donc,
toi.
Donc, je pense qu'il y a aussi beaucoup de jeux politiques.
C'est le champion du monde, mais qu'est-ce que tu veux revendiquer là quand tu te fais éclater comme ça par ton coéquipier? En fait, il y a un moment où.
Après, il y a quelques éclairs de génie en course où il fait des remontées.
J'irai pas jusque dire qu'il se fait éclater non plus. Il n'est pas à 2 secondes des temps de Charles Leclerc. Il n'est pas. Au
non, mais t'as vu
Charles
le bilan.
Leclerc.
Attends, Arnaud, il t'a donné le bilan. C'était quoi le
10
bilan
à 4 en qualification 10 à 4. Déjà.
Non, mais 10 à 4.
12-2 en course si tu mets la Chine.
10 à 4, mais dans ce cas-là, il faut regarder combien de temps il prend en qualif aussi. 10 à 4, si tu sors ces stats-là de leur contexte, tu peux sortir toutes les stats du contexte, techniquement.
Oui.
Sur la saison 2021, Carlos Sainz termine devant Charles Leclerc au classement. Je ne suis pas sûr qu'il fasse non plus une meilleure saison exceptionnelle que Charles Leclerc. C'est juste que sur des incidents de course.
Il y avait moins d'écart.
C'est des choses qui, entre guillemets, peuvent arriver. Donc...
Ouais, mais après, quand tu n'es même pas en Q3.
Ouais, c'est ça.
Ah, ça fait mal là, hein.
C'est sûr que ça fait mal, mais face à une des saisons les plus serrées aussi, moi je pense qu'il faut nous reprendre un peu des pincettes quand même sur ça, même si on est d'accord que le niveau est pas honteux, mais il faut en attendre plus de Lewis Hamilton, ça on est bien d'accord.
Non, mais bien sûr, on ne dit pas qu'il est cataclysmique, on ne dit pas que c'est une chèvre, on est mesuré dans ce qu'on dit, tu vois. On est mesuré, bien sûr. Mais, mine de rien, quand t'es Lewis Hamilton, sachant qu'il a eu le temps de le préparer aussi, son transfert, Lewis Hamilton, ça fait longtemps, tu vois, qu'il est au courant. J'imagine qu'il a bossé en amont, même s'il n'a pas roulé avec la voiture, mais il s'est tenu au courant du contexte. Et puis,
il n'a pas appris l'italien.
À cet âge-là, quand même aussi, tu t'adaptes plus facilement que quand tu as 18 ans et que tu es parachuté dans un environnement que tu connais pas. Et puis, j'imagine aussi que chez Ferrari, que c'est pas le mec à qui on a donné les clés de l'appart et on lui a dit débrouille-toi. J'imagine que tout est fait pour qu'il soit dans le meilleur contexte possible et dans le plus grand des conforts. Donc, moi, c'est pour ça que sa performance, il y a un moment où... Je trouve que tu n'es pas au niveau, tu ne réponds pas aux attentes. Et ce n'est pas grave, mais sur cette première moitié de saison, tu ne réponds pas aux attentes pour l'instant. Tu vois, si j'ai cette sensation-là. Bon, Serafin ?
Oui, il ne répond pas aux attentes. C'est normal. Après un transfert comme ça, avec un pilote qui est aussi talentueux, avec tout son palmarès, c'est normal. Je rejoins quand même Tristan sur l'adaptation d'une écurie. Il a fait toute sa vie chez Mercedes, McLaren d'abord, mais il arrive plus à s'adapter qu'un pilote qui est plus jeune. En fait, la façon de travailler, il l'a dit, en fait, elle est complètement nouvelle. Donc, il faut du temps comme tout pilote pour s'habituer à cette façon de travailler. On pouvait lui donner une demi-saison pour voir un peu comment ça allait aller. Là, on est un petit peu plus que cette mi-saison. Et en fait, on n'a pas vu de progression. Il y a quand même un petit point positif sur les courses ou en rythme de course. On voit qu'il arrive à peu près avec une voiture quand même qui est plus compétitive. Donc, il arrive quand même à.
Il fait des dépassements. Je veux dire, c'est presque indécent de faire des dépassements.
Bah, en Belgique, heureusement qu'il était là pour qu'il y ait des dépassements. Mais,
deuxième coup, question à un million, les gars. Si Verstappen est dans la voiture à la place d'Hamilton, il s'adapte plus vite ou pas? Non mais tu vois, c'est une question. Là,
c'est même pas un million cette question. Hein. Non,
mais ça dépend. Est-ce qu'on donne les clés à Verstappen pour créer sa voiture ou pas?
T'es dans de la fiction.
Et si on met Verstappen et Hamilton dans la McLaren, non, mais qui gagne?
Non, mais parce que par exemple, on sait très bien que Charles Leclerc et Max Verstappen ont à peu près le même style de pilotage, qui est très centré sur un arrière qui est joueur,
directif,
et alors qu'on sait plus que Lewis Hamilton, lui, ce qu'il aime, c'est de la stabilité sur le freinage, savoir que quand il met les roues là, la voiture elle va aller là, un peu à la Sébastien Vettel au final. Donc forcément, quand vous avez une voiture qui est... Et c'était un peu le problème de Carlos Sainz aussi, qu'il avait essayé de changer chez Ferrari, il avait essayé d'imposer son style, ou un style un peu plus posé, justement, sur l'arrière, que Charles Leclerc avait, lui, eu du mal à ce moment-là. Donc on voit très bien que la direction dans laquelle va une équipe peut faire modifier forcément les temps autour de chaque pilote. Après, est-ce que Max Verstappen s'adapte mieux à Lewis Hamilton? Peut-être, non, oui, parce que dans la
grossit très, tu vois ce que je veux dire. Mais bien sûr, c'est une question à laquelle on peut pas répondre.
Lewis Hamilton remet en contexte, par exemple, sur la sprint à la sortie de la Chine. Alors, sans prendre en compte la disqualification, si je pense qu'on réécoute le paddock à la sortie de la Chine, je pense qu'il y avait eu quelques encensements.
Ah, oh, c'est génial.
Voilà,
ouais,
exactement, de Lewis Hamilton pour sa pole et sa victoire en sprint. Alors, bien sûr, terni par le dimanche ensuite, mais si on remet du contexte sur sa saison. Tout n'est pas à jeter. Et c'est pour ça que pour moi, mettre moins de 10 ici, je trouve ça un peu dur. Après, je comprends aussi.
Mais bon,
que
on juge
attentes...
un septuple champion du monde.
Bien sûr,
tu vois,
c'est pour ça aussi. Je comprends que les attentes de certains, clairement, c'est un début de saison raté complètement par le septuple champion du monde.
Ok, les gars, qui en a d'autres dans les recalés selon vous?
Carlos Sainz.
Ouais.
8, il a eu du temps à l'écran ou pas, je sais pas, il a passé moins de temps à l'écran qu'Alpine, je crois, mais j'ai mis que j'avais oublié qu'il était sur la grille cette année. Non, la transition elle est très compliquée pour Carlos. Après, encore une fois, ça fait partie des pilotes qui, je pense, ont coché 2026. Il savait que 2025 allait être un peu une année de souffrance, et que je pense aussi que Williams l'a recruté justement pour son savoir-faire dans le développement d'une voiture pour 2026. Donc à voir, mais attention, parce que Alex Albon, il est aussi en train de démontrer que c'est un excellent pilote.
Ouais. Arnaud, Tsunoda, on lui a mis combien?
Bon, je n'ai même pas noté, mais moi, il me reste une note.
Vas-y.
Ouais, mais c'est zéro.
C'est
le deuxième baquet d'Alpine. Comme le nombre de points pris par le deuxième pilote Alpine.
Moi, j'ai mis deux parce qu'il ramène du budget un peu.
Ouais. Avec cassement les voitures.
Ah si, il en a cassé une en essai.
Oui, mais bon, souviens-toi de la fin de saison dernière. Non, parce que là j'ai mis...
Quand je pense que j'étais persuadé que c'était une pépite lui l'année dernière.
On va réécouter les podcasts.
Il avait montré de belles choses en même temps. C'est là aussi où c'est dur, parce qu'on en attendait un petit peu quand même de ce pilote.
Non, mais au-delà de blâmer, je mets pas ce zéro pour les pilotes, mais c'est la gestion. On voit quand même que sur l'écart par rapport à Gasly, Doohan était moins largué.
Ouais.
Dans les datas que Colapinto. Et voilà. Et puis, j'ai pas forcément mis une note à Alpine, mais je voulais quand même pointer ce problème du deuxième baquet, où la seule écurie où il y a un tel écart entre les deux pilotes, c'est Red Bull aussi, entre Verstappen et Lawson Tsunoda, où en termes de performance, tu prends les pourcentages, le deuxième pilote Red Bull, il est encore plus largué que le deuxième pilote Alpine, tu vois, quand on regarde un petit peu. Mais c'est aussi, voilà, pour toute cette gestion, on ne comprend pas, débarquer le pauvre Douane, et au final, tu fais le changement, bah, c'est pas mieux. Hein.
Mmh. Ah ouais, c'est vrai. Et donc, c'est vrai. Bah, on est tous d'accord pour dire, c'est afin que parmi les plus mal notés là, de cette première partie de saison, t'as Alpine, t'as Colac Pinto qui squatte un petit peu les...
Oui, mais il a raison, je suis d'accord, c'est Alpine en fait globalement, parce qu'on l'a dit juste tout à l'heure que Pierre Gasly tire cette équipe en essayant de scorer, mais c'est la gestion interne même de l'écurie, où on ne sait pas ce qu'on fait, la gestion en interne de qui commande l'équipe... C'est très compliqué, donc bien sûr que c'est pas la voiture est dernière, ils sont derniers au classement et c'est mérité en fait, malheureusement.
Tu lui as mis 5 toi à Colapinto, je crois.
J'ai mis 5 quand même à Colapinto, ouais. Mais c'est vrai que ça va être compliqué de... En fait, on sait même pas qui va vouloir prendre un baquet l'année prochaine dans une Alpine. On sait que voilà, il y avait cette histoire à un moment donné de swiper chez Mercedes parce qu'il y a le moteur, mais c'est... Ça reste des rumeurs, je ne projette pas trop là-dessus. Donc en fait, qui va vouloir d'un deuxième baquet en Formule 1 dans une voiture comme une Alpine? Ça va être compliqué.
Ah bah ça peut te flinguer un début de carrière. Ouais. En tout cas, si c'est un jeune pilote, un rookie qui arrive, ouais.
Attends, je regarde sur Google Maps la distance entre Brackley et Enstone.
Non, mais, et qu'est-ce qu'on va faire?
Je le fais vraiment. Hein.
Qu'est-ce qu'on va faire surtout de Franco Colapinto? À quel moment on se dit c'est bon, ça y est
En stock car.
Non, mais...
Ah, ça tue une carrière, en fait.
Non, mais c'est surtout Jack Doohan, il a fait 3 fois moins pire, et il s'est fait virer au bout de... Il a fait combien de Grands Prix, Jack Doohan? 5?
Il en a fait 6.
6 Grands Prix. Là,
il y a 30 minutes entre Enstone et Brackley.
là, il faudrait quand même réfléchir sur la fin de saison à pas essayer justement de mettre...
Ah, mais tu peux pas le sortir.
Mettre un pilote de son académie. Pourquoi pas?
Il y a Paul Aron, mais...
Non, mais quitte à avoir une écurie dans les bas-fonds, moi j'ai mis que c'était un bateau qui coulait mais qu'on laissait le robinet des toilettes ouvert, et ben moi, quitte à tenter des trucs, quoi. Là, on essaye juste, j'ai l'impression qu'on essaye de ne pas perdre de valeur. Alors que l'écurie est en train d'en perdre, bon, on voulait me dire...
J'ai l'impression qu'il ramène trop de sponsors, il a une puissance financière qui est trop importante.
Après, voilà, quitte à bazarder la saison, autant laisser un pilote qui te ramène
exactement
un peu d'oseille.
Autant laisser un pilote payant qui arrive avec de l'oseille.
Pourquoi pas laisser un pilote qui, justement, te prendra le temps de s'adapter avec l'équipe pour 2026?
Parce que je pense qu'il réfléchit pas comme
parce
ça.
Que c'est pas
là, ils
ne
sont
oui.
pas dans cette réflexion-là.
Surtout, ils viennent de changer le patron du groupe, plus de Luca De Meo, donc tu ne sais pas trop où tu vas aller. Est-ce que Flavio va rester longtemps?
Bah lui, tant que le chèque vient,
sûr,
je pense
qu'il
reste.
Hein.
C'est plus un Italien, le Big Boss, maintenant. Hein.
Ah, mais tant qu'il y a un chèque, je pense qu'il va rester, Flavio.
Ah oui, mais bon.
Donc, à la fin du mois, il y a les...
C'est vrai qu'en général,
mais
c'est ce
on peut
fait.
Lui dire, écoute le conseiller.
Ah oui, bah après, ça, à voir.
On va mettre Christian Horner à ta place.
Bon bah les gars, merci beaucoup. Et on a fait long sur ces notes demi-saison là. Est-ce qu'il y a d'autres notes là un peu sympas là dont vous vouliez parler, Serafin? Qu'est-ce que tu m'as mis?
Je vais mettre un 20, Nicolas Paolorsi.
Oh là là,
lui
il
veut être là jusqu'à la fin de la saison.
C'est ce que j'allais dire. J'allais dire lui il veut l'avoir son diplôme. Non mais franchement globalement vous avez été assez constant.
Moi je trouve ça dommage. Il a parlé de Yuki Tsunoda. Moi j'ai mis 8 à Yuki Tsunoda. Mais en fait pareil, on est en train de comment dire, avec la voiture qui est compliquée, en fait on est en train de pourrir un peu sa carrière à Yuki Tsunoda, parce qu'il avait été très très bon chez Toro Rosso, mais chez Racing Bull pendant 4 années. Il avait progressé au fur et à mesure, et le fait de l'avoir swipé dans la Red Bull, eh ben honnêtement on voit que cette année il souffre beaucoup. Il a du mal à scorer, et en fait j'espère que mentalement ça va pas trop l'affecter, parce que même
il
si
a voulu la place hein.
prochaine,
ouais exactement
ça faisait longtemps.
Après t'as aussi des choix de carrière que tu fais au bout d'un moment, et bien sûr que ça conditionne la suite, mais
tu mets combien à Lawson alors mais... si tu mets 8 à Tsunoda?
Ah j'ai pas Lawson, moi j'ai noté
tu l'as mis 12.
Lawson je l'ai mis 12,
ouais. Ouais bah ouais. Oui d'accord.
Voilà.
Super Lawson, hein.
Moi j'ai mis la même note à Yuki et à Lawson. J'ai dit que c'était les deux victimes du meurtre Red Bull cette année, et qu'il fallait pas en attendre plus. Rien que dans ce qu'ils ont subi mentalement, il fallait rien en attendre cette année.
La différence que Lawson a pris beaucoup plus de points que Yuki.
Après, en même temps, ils ont pas eu, il y a eu que deux Grands Prix Yuki chez Racing Bulls, donc ils pouvaient pas faire beaucoup plus. Mais non, mais ce que je voulais dire, c'est surtout que Lawson fait une bonne fin de première partie de saison. Que c'est à surveiller, et qui montre aussi à quel point bah, ça fait partie de ces pilotes qui ont un talent et qui sont cramés complètement par le management d'un homme qui est enfin parti. Enfin, pas vraiment, parce qu'il y a encore Helmut Marko, mais je pense que Christian Horner, en tout cas, le suivait un petit peu dans ses démarches, mais les deux se sont ajoutés à la longue liste de victimes Red Bull. Mais hâte de voir ce que ça va donner avec quand même Laurent Mekies, parce qu'au final, Yuki Tsunoda, dans son malheur, bah, il récupère son ancien team principal. Sur ses deux derniers Grands Prix, il semble un petit peu plus en confiance avec la voiture parce qu'on lui laisse un peu plus de liberté, justement. Donc ça, c'est assez intéressant et je pense que c'est à surveiller pour la fin de saison parce qu'il pourrait, c'est marrant de dire ça, il pourrait de plus en plus rentrer en Q3. Pardon.
Excellent. Ah oui, c'est vrai.
Incroyable pour un pilote.
Ah là là, exceptionnel. Ouais, on n'a pas vu ça depuis.
Depuis Sergio Pérez.
J'ai mis dans mes notes, on en serait presque à regretter Sergio Pérez en
2024. Sergio, en plus, il revient en 2026.
En ayant pris un énorme chèque.
Fort, ça, avec un Checos. Lui, c'est vraiment.
C'est plus Checos, c'est Checos. Hein.
Ah ouais. Moi, Checos Pérez.
Ce qui me ferait marrer, c'est que sur son premier Grand Prix, il arrive avec son camion de tequila pour en livrer aux membres de l'écurie Red Bull et pour leur dire salut.
Bien évidemment, à consommer avec modération. On rappelle, même si vous êtes encore en vacances. Bon les gars, merci beaucoup. On se retrouve jeudi pour le warm-up du Grand Prix des Pays-Bas. On lance cette dernière ligne droite de la saison 2025, bien évidemment. Vous n'oubliez pas vos petites notes. On vous dit à jeudi, hein, ça arrive vite. Et d'ici là, vous n'hésitez pas à vous partager le podcast, vous en parler à des potes. Bref, vous êtes de plus en plus nombreux à écouter le paddock RMC. Et c'est trop cool de pouvoir vous partager du contenu Formule 1 tout au long de la saison. Je vous rappelle également les qualifs et la course, hein, bien évidemment, en suivant live sur RMC. Avec Jean-Luc, toutes les qualifs de la saison, toutes les courses sont en direct sur l'antenne de RMC avec notre team principal à nous, le patron, la légende, Jean-Luc Roy. Allez, ciao, ciao et à jeudi les gars. Bye.
Le paddock RMC.